Chapitre 16. Franck roula avec l'angoisse pour passagère. Dans ses meilleurs jours, Bélanger était un excellent flic, un perfectionniste au flair animal qui avait bien compris le job. S'acharner sur les détails dont tout le monde se fiche. Le genre à se poser des questions sur la position d'une douille et à ne jamais lâcher une piste à laquelle il croyait, quitte à s'attirer les foudres de sa hiérarchie. Qu'avait-il découvert chez Ramirez en pleine nuit? Le col de son caban remonté sur son cou, Nicolas fumait près des marches quand Charcot arriva. Chaque fois qu'il le voyait, Franck avait en tête l'image du flic détruit interprété par Brad Pitt dans Seven de David Fincher. À droite comme à gauche, le jardin se résumait à une succession de trous et de monticules de terre, ravages du bulldozer. Charcot éteignit ses phares et jaillit de l'habitacle avec sa tête des mauvais jours.
« Ça pouvait pas attendre demain ?»«
Tu commences à te faire vieux. »«
J'ai surtout une famille. »«
C'est vrai que t'as cette chance, ouais. » Il balança d'une pichenette sa cigarette au fond d'un trou et montra la clé de l'entrée. « Je me suis permis de la prendre sur ton bureau. » Charcot se demanda si Nicolas était retourné à son domicile après la réunion avec Magna. Peut-être était-il resté seul dans l'open space avec une petite lumière, de la poudre au fond des narines, face aux photos du cadavre de Ramirez et à ses vieux fantômes. Franck désigna les scellés arrachés sans précaution.
« T'aurais pu faire gaffe !»«
Tu te fais vraiment trop vieux ? Allez, amène-toi, c'est là-haut que ça se passe. » Ils s'engagèrent dans la cage d'escalier. Le capitaine de police lui tendit une paire de gants en latex. « En début de soirée, j'ai contacté le collègue de Chénet, celui qui verse dans le gothique. Bon, ce que je vais te raconter est assez caricatural, mais les chats noirs sont liés à la magie occulte, aux sorcières, aux mauvais sorts et surtout au satanisme. On les utilisait de plusieurs façons pour invoquer le diable lors des rituels. On les offrait en sacrifice à Satan. On les brûlait, on les mutilait. Leur long hurlement attirait les démons.
Conneries.
Sauf pour Ramirez, visiblement, et certains groupuscules de fêlés qui doivent encore exister de nos jours. Le piercing au gland, avec le symbole sataniste, ça s'appelle un ampalang. Ça a surtout un but identitaire. J'ai fait des requêtes sur les termes pray-mève, prie-mève ou prier-mève. C'est compliqué de trouver des réponses pertinentes sur mève, M-E-V. C'est trop générique, trop court. Je me dis que c'est peut-être une divinité, un démon ou un chef de meute.
Mais tu n'as rien trouvé.
Non. Une chose est sûre. Même avec 4 ans de tôle, Ramirez n'a jamais abandonné le satanisme. Au contraire, enfermé dans sa cellule, il s'est peut-être davantage réfugié dans les bras du chétan. Au légiste gothique, j'ai aussi parlé de ses traînées de sang, de ses traits devant les portes. Selon lui, on retrouve ces rites de dispersion de sang dans de nombreuses traditions où l'on croit aux esprits et à la sorcellerie. On égorge des animaux domestiques, la plupart du temps des poulets, et on répand le sang devant les issues ou autour des endroits de vie. Ces barrières sont censées protéger le foyer et ses habitants des esprits malfaisants, et plus particulièrement du diable.
« Ok, admettons. Ramirez a toujours été dans ce trip-là, diable et compagnie, et la prison n'a fait qu'amplifier le phénomène. Mais c'est paradoxal, ce que tu me racontes. Si Ramirez est sataniste, il ne repousse pas le diable, il l'invoque.
Justement, pas de barrière de sang à la porte d'entrée, ni... » Il s'arrêta devant une porte fermée. « Dans cette pièce. » Il n'interdit pas au diable d'entrer chez lui, au contraire. Il le guide jusqu'à ses 4 murs.
Au cas où le diable aurait oublié son GPS et se perdrait.
Mince sourire de Nicolas, devenu trop rare sur son visage.
Tu te rappelles les tacs de moto et de voiture sur les murs de cette pièce? Pas vraiment l'ambiance sataniste, ces tags, tu ne trouves pas?
Avec un type capable de répandre du sang partout dans sa baraque, de tuer des chats noirs, et de profaner des tombes à 17 ans, on s'attendrait plutôt à des dessins de pentacles, des croix inversées, des 666, ce genre de conneries. Nicolas ouvrit la porte. Il avait arraché la tapisserie taguée et mis au jour une fresque démente, précise, élaborée, sur tout un pan de mur. Les dessins d'une minutie extrême avaient été réalisés à l'encre noire, non sans talent. Deux monstres ailés, velus, au museau de loup et à la langue pendante, arrachaient des femmes et des hommes à leurs familles, leurs griffes rétractées sur les bras innocents. À l'arrière-plan, un gros monstre rouge engloutissait de petites silhouettes. Pourquoi il a caché cette fresque derrière une tapisserie? Qu'est-ce qu'elle représente? Charcot ne répondit pas, secoué de l'intérieur, fixant l'un des visages. Le petit anneau au nez, les courts cheveux bouclés, les yeux, Laetitia Charland se tenait là, face à lui, son bras gauche prisonnier de la main crochue du monstre le plus agressif. Il voulait l'entraîner vers le gros diable affamé. Franck dut lutter pour ne rien dire, ne laisser transparaître qu'un vague étonnement. Laetitia et son sourire qui avait brûlé dans les flammes ne devaient exister que dans sa tête. Si les diables l'emportaient, elle, et qu'elle existait vraiment, alors était-ce le cas pour les autres personnages de la fresque? Correspondait-il à de vraies personnes? Les deux hommes se placèrent au milieu de la pièce, dans cet espace de folie, de démence pure, de souffrance perceptible. Cet endroit, dans sa simplicité, rappelait un autel sacrificiel, un lieu de vénération du diable. Le flic ressentit une main glacée dans son dos et le long de son échine. Il frissonna. Nicolas avait vu la façon dont son collègue s'était rétracté. « Alors tu l'as senti, toi aussi ?»«
Quoi ?»«
Le petit courant d'air. » Nicolas lui tapota sur l'épaule. « Viens voir. » Il se dirigea vers le fond de la pièce. « J'ai aussi déplacé l'étagère, exactement de cette façon. Et voilà ce qu'on trouve dessous. » Il la tira sur le côté, s'accroupit et souleva une trappe découpée dans le plancher. D'une cachette, il sortit deux cartes d'identité. La photo coïncidait avec le visage de Ramirez. Mais les identités étaient Julien Forger et Julien Poix. Date de naissance identique. Des cartes bien imitées, mais fausses. Puis, Nicolas lui tendit une grosse chaîne avec une entrave circulaire en acier bordée de sang séché. Il hocha le menton derrière Charcot. Les tuyaux proches du radiateur, légèrement tordus, et la peinture a sauté si tu regardes bien. Charcot alla jeter un œil. Comme si quelqu'un y avait été attaché avec la chaîne.
On dirait bien qu'il y a eu un prisonnier ici.
Nicolas présenta également une espèce de râtelier en bois qui contenait 13 éprouvettes. Charcot les observa. Elles étaient à demi remplies d'un liquide aussi clair et transparent que de l'eau. Il voulut en débouchonner une, mais Nicolas lui serra le poignet. « Vaut mieux pas ouvrir sans savoir ce que c'est. » Bélanger le fixait avec gravité. Charcot reposa le râtelier devant lui. Pourquoi Ramirez l'avait-il caché avec autant de soin? Le capitaine de police sortit aussi un long tube en carton. À l'intérieur, un calque format affiche de bus que déroula Charcot. Rien dessus, hormis 13 points faits au feutre noir et répartis un peu partout. 13 points qui ne veulent rien dire sur un calque, 13 éprouvettes. Il y avait aussi 13 scarifications en forme de bâton sur la poitrine de Ramirez. Et quand tu comptes bien sur la fresque,
13 individus emportés par deux diables vers un autre plus gros. 8 femmes et 5 hommes.
Mal à l'aise, Charcot se mit à prendre des photos avec son téléphone portable. Le trio de diables l'observait. Ils tiraient leur longue langue rouge sous leurs narines fumantes, embarquaient Laetitia et les autres dans les ténèbres. Au fin fond de son crâne, le flic put entendre leurs rires mesquins et les hurlements de leurs prisonniers. Maeve était-il ce diable rouge, deux fois plus gros et puissant que les autres, qui semblait orchestrer l'ensemble et se nourrir de chair humaine? Où était Laetitia? Quel avait été son sort? Pourquoi elle? Quand il en eut terminé, Charcot éteignit la lumière. La pièce sombra alors dans le noir absolu, une obscurité malfaisante qui laissa les deux flics glacés d'effroi.